On commence aujourd'hui la série Les exercices spirituels à pratiquer partout et en tout temps. Je connais beaucoup de personnes qui pratiquent des exercices physiques régulièrement, comme marcher ou courir ou faire du vélo ou pratiquer une danse ou aller au fitness. Ceux qui pratiquent des exercices physiques ont généralement un but précis, pour maintenir la forme ou pour gagner en masse musculaire ou pour perdre du poids, pour dépenser son énergie ou juste pour le plaisir. Et si on est sérieux dans nos exercices, on sait qu'il faut de la régularité. Je peux pas me dire, je fais pas d'entraînement de foot aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Ou alors, je cours une fois tous les 3 mois. Non, ça marche pas comme ça. Jimmy, par exemple, il s'entraîne pour les 10 km de Lausanne et je sais que d'autres aussi s'entraînent pour ça. Et il va courir avec un voisin tous les lundis soir. Alors ça porte du fruit. On a un but, on prend une décision consciente et on met en pratique. Et quand on parle d'exercice spirituel, c'est assez similaire. Ce sont des pratiques qu'on va consciemment mettre dans l'agenda, planifier pour s'exercer régulièrement. Donc ici, c'est l'agenda qu'on marque. Et puis, tout comme l'exercice physique, on a aussi un but avec ces exercices. Le but de ces exercices, c'est de se rapprocher de Dieu, de rester connecté à lui. Mais d'où vient cette idée de faire des exercices pour se connecter à Dieu? C'est pas plutôt des idées de la philosophie zen ou bouddhiste? Non, c'est biblique. Regardez ce que Paul a écrit à Timothée. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Ou une autre version dit, exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Et il continue. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. 1 Timothée 4, 7 à 9. S'exercer à vivre dans l'attachement à Dieu, s'entraîner à rester attaché à lui. Paul dit que c'est une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Ce n'est pas juste une philosophie orientale. Les chrétiens peuvent s'exercer dans l'attachement à Dieu. Le danger lorsqu'on parle d'exercice spirituel, c'est de croire que ce sont nos efforts qui nous font gagner la présence de Dieu, qui nous font mériter sa bénédiction. Parce que je pratique ça, 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 Dieu me bénit comme ça et comme ça. Cette pensée, elle n'est pas juste, Dieu, parce que Dieu, il bénit parce qu'il veut bénir, tout simplement. On ne peut pas contrôler sa bénédiction. Il n'y a pas de rendement mathématique. Fais tant de ça pour gagner tant de ça. Ça n'existe pas, ce genre de calcul dans le royaume de Dieu. On pratique des exercices spirituels simplement parce qu'on l'aime et qu'on veut rester attaché à lui. Tout comme on aime notre conjoint et on veut profiter de sa compagnie. Alors on veut prendre du temps pour Dieu, juste pour être avec lui. Voilà. Mais les exercices spirituels sont bénéfiques pour deux raisons. Et la première, c'est que Dieu bénit réellement ceux qui veulent être bénis, ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6 dit que sans foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il bénit ceux qui ont envie d'être bénis. Si on le recherche, on a envie. Donc quand on pratique un exercice spirituel, on est en train de dire, je crois en Dieu. J'ai envie de recevoir sa bénédiction dans ma vie et ça ouvre les portes pour que Dieu bénisse. Parce qu'il récompense ceux qui le cherchent, c'est ce qu'il dit ce verset biblique et c'est une promesse. Et deuxièmement, pratiquer des exercices spirituels nous rappelle que Dieu, il est présent dans notre quotidien. Il est vraiment présent dans nos activités en semaine, on le sait. Mais on est plutôt distrait. On a la tendance à oublier qu'il est là. Du coup, notre tendance naturelle, c'est de vivre notre journée comme si il n'était pas là. On peut passer toute une journée sans penser à lui, sans rechercher son secours, sans avoir du plaisir dans sa présence. Parce que les activités, les choses qu'on doit faire passent devant. Donc, pratiquer des exercices spirituels remet dans notre pensée la vérité. Dieu est ici. Peu importe ce que je vis en ce moment. Et je peux compter avec son aide, je peux compter avec son amour, son réconfort, sa correction, sa direction. Il est là. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'exercice spirituel de l'adoration. On va voir que cet exercice, on peut pratiquer seul, dans un temps à part. On peut pratiquer pendant la journée, pendant les occupations, et on peut aussi le pratiquer en communauté. Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit quand on dit adorer, adorer Dieu? Peut-être pour quelques-uns, ça sera la louange ou en cantique. Ou peut-être ça peut être un style de culte avec beaucoup de prières, je ne sais pas. Jésus a eu une discussion une fois avec quelqu'un sur qu'est-ce que c'était la bonne adoration. Il était en Samarie et il rencontre une femme samaritaine au bord d'un puits. Il commence à discuter et à un moment il dit, je vois que tu es prophète. Alors peux-tu me dire, c'est ici sur cette montagne, en Samarie ou à Jérusalem qu'on doit adorer? Parce que nous les Samaritains, on dit que c'est ici qu'il faut adorer. Vous les Juifs, vous dites que c'est là-bas, à Jérusalem. Cette question est très importante parce qu'il y a plus derrière la question que juste ce qu'elle a demandé. Ce n'était pas juste sur l'endroit où ils devaient adorer, parce qu'ils adoraient aussi d'une manière différente. Par exemple, de l'Ancien Testament, les Samaritains n'acceptaient que les cinq premiers livres, ils ne prenaient pas tout le reste. Et la séquence de culte pouvait aussi être différente. Donc elle était en train de demander, quelle est la bonne façon d'adorer? La vôtre ou la nôtre? Et Jésus répond en Jean 4, 19, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Donc avec cette discussion, on apprend certains éléments clés pour pratiquer l'adoration. D'abord, Jésus répond, ce n'est pas la forme du culte qui produit la véritable adoration. Ce n'est ni suivre un rituel strict, ni plutôt avoir un style libre qui peut apporter la véritable adoration. Ce n'est pas la forme qui compte. Jésus a dit que c'était quand on se laisse guider par son esprit. C'est là qu'on adore pour de vrai, et quand on recherche sa vérité, là, il y a la véritable adoration. Et à partir de là, peu importe la forme choisie pour adoration, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Quand on adore, on loue Dieu pour qui il est et pour ce qu'il fait. Donc, comment on peut pratiquer? Alors, voici quelques exemples. D'abord, premier exercice à pratiquer dans un temps à part. La première idée, c'est avec un psaume, par exemple. C'est cette première image. Il y a des psaumes où l'auteur liste plein de qualités de Dieu et il loue aussi pour les choses qu'il fait. Donc, c'est un bon départ. On prend un de ces psaumes, on découvre ce qu'il dit à propos de Dieu. Et après, on pratique l'adoration par les choses qu'il dit dans ce chapitre. Donc, si dans le psaume, il dit, ah, tu es un rocher toujours fidèle, donc je peux louer Dieu. Dieu, merci parce que tu es toujours fidèle, je peux toujours compter sur toi. Une deuxième manière de le faire, c'est à travers la musique, des personnes qui aiment comme ça, mettre un chant. Et pas un chant où on demande des choses à Dieu, mais plutôt un chant qui loue sa grandeur, son amour, ce qu'il fait pour nous. Et quand on écoute le chant, on lit les paroles et on fait des paroles du chant, ses propres paroles, mes propres paroles. C'est une autre idée d'adoration dans un temps à part. Une troisième idée pour le faire, c'est d'apprendre les noms de Dieu dans la Bible. Par exemple, Yahweh Tsidikenu, le Dieu qui fait justice. Ou Yahweh Kadesh, le Dieu qui sanctifie. Merci parce que tu veux sanctifier ma vie. Tu peux sanctifier cette église. Ou Yahweh Shalom, le Dieu de la paix, Donne-moi la paix pour aujourd'hui, parce que tu es le Dieu de la paix. Ou Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Yahweh Rori, le Dieu qui est mon berger. Yahweh Nissi, le Dieu qui est notre bannière, celui sous lequel on combat et qui donne la victoire. Ou Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit à mes besoins physiques, émotionnels, matériels. Et comme ça, on est constamment rappelé qui Dieu est pour l'expérimenter dans le quotidien. Pour nous aider dans la prière. Ah, si Yahweh et Yahweh Rapha qui guérit, donc s'il te plaît, guéris-moi de cette maladie, guéris mes enfants qui passent par des moments difficiles. Et ça nous aide aussi à témoigner à d'autres personnes, parce qu'on peut leur dire, non, Yahweh, c'est marqué que Dieu est Jireh, ça veut dire le Dieu qui pourvoit, donc tu peux lui faire confiance. Et on peut témoigner à d'autres personnes. Il y a aussi des exercices à pratiquer pendant la journée, pendant les choses qu'on fait pendant la journée. Et là, j'avais cité au YEP, il y a ce monsieur qui s'appelle Frère Laurent, qui s'est converti à l'âge de 18 ans, un jour d'hiver. Il a vu un arbre tout nu, sans aucune feuille, et il a commencé à réfléchir. Waouh, bientôt, les feuilles vont apparaître, et ensuite des fleurs, et après les fruits. Et il s'est rendu compte de la puissance de Dieu. Il dit dans ses écrits que ce sentiment ne s'est jamais effacé de son âme, et puis il a voulu, à partir de là, vivre détaché des choses du monde. C'est un amour pour Dieu qui a continué à grandir au fil des années. Et en 1666, il décide d'entrer dans un monastère ouvert. Et pendant toute sa vie, il a décidé de pratiquer ce verset. 1 Corinthiens 10, 31. « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et j'aimerais citer un peu ce qu'il dit dans son livre « La pratique de la présence de Dieu ». Il dit « Nous devrions établir dans notre vie un sentiment constant de la présence de Dieu, en lui parlant continuellement tout au long de la journée. Que toutes nos actions soient guidées par l'amour. L'amour devrait être le but de tout ce que nous faisons au quotidien. » Comme cette image montre, il travaille dans la cuisine et il détestait ce travail qu'il devait faire au monastère. Mais il s'est habitué à faire par amour pour Dieu, en priant à toute occasion, en demandant sa grâce pour bien faire le travail. Il a dit qu'il a même trouvé facile d'accomplir ce travail pendant 15 ans et qu'il a appris à avoir du plaisir à ramasser une brindille par terre si c'était par amour pour Dieu. Il écrit que les moments de prière fixés par les responsables du monastère n'étaient pas différents des moments de travail dans sa relation avec Dieu. Dès que son temps seul avec Dieu prenait fin, il continuait en relation avec Dieu en louant pour sa puissance. Ainsi, il éprouvait une joie constante. Il dit aussi que développer cette habitude de parler constamment à Dieu demande un peu de détermination au début, donc s'exercer, comme on a dit. Mais que plus tard, son amour nous encourage tellement intérieurement que nous le faisons sans difficulté. Il dit que lorsqu'il manquait à un devoir, il confessait simplement son erreur en disant « Par moi, je ne peux pas faire autrement. » Il confessait son erreur, ensuite il ne se laissait plus abattre par l'échec. Donc il était sensible à ses péchés, ses erreurs, mais il ne se laissait pas décourager par eux. Après les avoir confessés, il ne demandait plus pardon, mais il retournait simplement à sa pratique d'amour et d'adoration constant. Il dit que la confiance que nous plaçons au quotidien dans le Seigneur l'honore grandement et apporte de grandes grâces dans nos vies. Il dit qu'il a si souvent bénéficié du secours de la grâce divine, toujours présente en toute occasion, même lorsqu'il devait accomplir une tâche qu'il n'avait jamais fait auparavant, qu'il n'avait pas réfléchi à l'avance de la façon de résoudre le problème, eh bien, il trouvait en Dieu comment s'y prendre. Comme ça, il ne laissait pas les soucis lui voler sa paix, sachant que le Seigneur était toujours présent, allait toujours l'aider dans toutes les situations de la vie. Il écrit que nous ne devons pas nous lasser des petites choses par amour de Dieu, car il ne regarde pas l'ampleur de la tâche à accomplir, mais la quantité d'amour avec laquelle elle est accomplie. Il disait que tout est possible si l'on croit, moins difficile si l'on espère, plus facile si l'on aime, est bien plus léger si l'on persévère dans la pratique de ces trois vertus, croire, espérer, aimer. Du coup, frère Laurent a découvert un immense trésor, marcher continuellement dans la présence de Dieu. Et il conseille avec ferveur aux autres de vivre la même chose. Même dans l'agitation du travail en cuisine, il gardait l'esprit fixé sur l'essentiel. Jamais pressé, ni traînant les pieds, il faisait chaque chose à son rythme, avec une sérénité d'esprit. Il disait, les moments de travail ne sont pas différents pour moi des heures de prière. Et au milieu du bruit et du vacarme de la cuisine, avec plusieurs personnes demandant plusieurs choses à la fois, j'ai avec Dieu une grande tranquillité, comme si j'étais à genoux en prière. De tous les témoignages que j'ai entendus, il est pour moi celui qui a le mieux réussi à pratiquer l'adoration dans le quotidien. Je suis encore loin de le vivre aussi pleinement que lui, mais si j'arrive déjà à pratiquer un tout petit peu plus dans le quotidien, ce serait déjà super. Un autre verset qui résume ce qu'il s'est exercé à vivre est celui de 1 Timothée 5, 17, qui dit: Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et finalement, voici quelques exercices d'adoration à pratiquer en communauté quand on se réunit. Un contraste très marquant de la foi chrétienne par rapport aux religions orientales, c'est que la Bible encourage fortement l'adoration communautaire. Même dans les situations de grande persécution, les premiers chrétiens étaient encouragés à ne pas abandonner les rassemblements, comme dans Hébreux 10, 25 par exemple. Paul aussi compare souvent l'Église à un corps où aucun membre peut survivre tout seul. On a besoin de tous et on doit être connectés. Et ici, à Orbe, on l'a dit clairement dans la nouvelle stratégie, l'objectif principal de nos cultes et des classes avec les enfants, c'est de rencontrer Dieu. Si on vient ici, c'est pour rencontrer Dieu. Tout le reste est accessoire. Et j'ai beaucoup de plaisir à ce que notre Église ait un style de culte libre, ce qui nous permet de varier la forme pour pouvoir aider chacun à trouver un espace pour se connecter à Dieu selon sa manière d'être. Et Richard Foerster, dans son livre sur les disciplines spirituelles, donne quelques pas pour nous aider à réussir à entrer pleinement dans l'adoration communautaire. Le premier point qui est affiché, c'est pratique l'adoration en semaine. L'adoration commence en semaine, individuellement. L'adoration communautaire sera juste la continuation de ce que tu as pratiqué en semaine. Deuxièmement, prépare-toi pour venir adorer. Dans la Bible, on voit souvent que le peuple se préparait quand il allait venir adorer Dieu. Il ne touchait rien d'impur, ou il y avait des bains de purification pour les fêtes. Et Richard Foster encourage à prendre un temps, samedi soir ou dimanche matin, pour faire un examen personnel et confesser ses péchés. C'est une manière de se préparer pour venir avec un cœur libre pour adorer. Troisièmement, abandonne tes fardeaux. Laisse au pied de la croix l'agenda, les préoccupations, les problèmes. Pour ce moment d'adoration, ce n'est plus tellement le je qui compte, c'est le nous. Au lieu de venir au culte seulement pour ce que je peux recevoir, on peut arriver dans le culte et prier pour que Dieu se révèle comme lui il le souhaite, à qui lui il souhaite et en utilisant l'élément que lui il veut utiliser. En fait, c'est lui qui décide quels outils humains seront utilisés pour son œuvre. Ce n'est pas nous. On ne contrôle pas ce genre de choses. Il y a déjà un petit groupe qui se réunit pour prier pour cela à 9h15 ici et tu peux venir. Mais même si tu ne participes pas à ce moment, tu peux prier pour ceux qui seront devant pendant le culte et à l'école dimanche pour que Dieu libère chacun pour parler la vérité dans l'amour, pour être sensible aux besoins de ceux qui écoutent, pour que les cœurs soient bien disposés pour recevoir de Dieu. Et dernièrement, et peut-être le plus difficile, c'est faire un sacrifice d'adoration. Ça, c'est dur à pratiquer, mais la vérité, c'est si Dieu a vraiment la première place dans ce lieu, comme on prie et on désire, alors, ce n'est pas très important s'il y a des choses qui ne se passent pas comme je l'aurais souhaité. Il peut souvent y avoir des choses dans le culte qui embêtent ou qui dérangent, qui empêchent d'être pleinement disposé à adorer. Eh bien, c'est la bonne occasion de faire un sacrifice d'adoration, d'adorer malgré tes sentiments. C'est dire, Seigneur, on est rassemblés ici et on est une communauté de pécheurs et d'obstinés, moi inclus. Avec ce qui s'est passé, je n'ai aucune envie de t'adorer. Mais je veux t'offrir quand même mon adoration, je te la donne. Et je fais confiance que tu vas agir au milieu de nous, malgré nos imperfections. Parce que ta grâce est là. Et tu vas parler et agir malgré nous. Ça, c'est un sacrifice d'adoration. Un sacrifice d'adoration, c'est aussi se libérer du regard des autres. Si j'ai envie d'adorer avec la prière à haute voix, je prie. Peu importe ce que les autres vont penser. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de me mettre debout, je me mets debout. Si j'ai envie de lever mes mains, je lève les mêmes mains. Si Dieu m'encourage à partager quelque chose devant que j'ai vécu avec lui, ben je viens. C'est aussi un sacrifice d'adoration. Je loue publiquement Dieu pour quelque chose qu'il a fait en semaine. Faire un sacrifice d'adoration. Si on vient au culte avec cette attitude, ça change notre regard sur beaucoup de choses. Et finalement, je vous encourage à essayer de pratiquer juste un des exercices à chaque semaine. Pas tout d'un seul coup. Si quelqu'un veut s'entraîner pour un marathon et puis il n'a jamais couru, ça ne sert à rien de commencer directement avec 5 km. C'est trop. Il faut commencer petit à petit, essayer quelque chose pour gagner de la force musculaire. Et dans le cas des exercices spirituels aussi, on prend juste un et puis on essaie de pratiquer pendant 4, 5, 6 semaines. Puis si après ça m'aide à me connecter avec Dieu, ben je continue. Sinon après je change d'exercice pour voir si ça m'aide à me connecter avec Dieu. Et j'aimerais bien que vous me racontiez vos histoires. Ça peut être, par exemple, j'ai essayé de pratiquer l'adoration pendant que je jouais avec mes enfants et puis vous me racontez ce qui s'est passé. Ou j'ai pratiqué tel exercice d'adoration pendant un moment seul avec Dieu et vous me racontez ce qui s'est passé parce qu'on aimerait raconter dans les prochains messages les témoignages que vous avez partagés avec nous. Et ça peut aussi être anonyme, vous m'écrivez un message et vous dites « j'aimerais pas que mon nom soit dit et je vais raconter l'histoire sans dire votre nom ». Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dire « regarde, il y a des gens dans la communauté qui pratiquent ces exercices spirituels et voilà ce qui apporte pour eux, ce que ça apporte pour eux ». Pour terminer, j'aimerais faire cette prière d'adoration qui a été inspirée du psaume 76. Dieu s'est fait connaître. Son nom est grand. Il brise les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Il tait les situations conflictueuses. Tu es plus majestueux, plus puissant que les chaînes de montagne. Toi, tu es redoutable. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Lorsque tu te lèves pour faire justice, pour sauver tous les humbles de la terre, faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Que tous ceux qui le craignent apportent l'adoration au Dieu souverain. Amen.